Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et nous allons lire deux paraboles qui sont données par le Seigneur Jésus lui-même, l'une derrière l'autre, une pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et une pour nous enseigner qu'il ne faut pas prier n'importe comment. Évangile de Luc chapitre 18. Ce matin, je pense que plusieurs parmi nous ont vraiment besoin de se resituer au niveau de l'intercession. Beaucoup de chrétiens sont peut-être découragés au niveau de la prière parce qu'il y a peut-être des obstacles à la prière. Alors écoutons, vous savez, c'est la chose la plus importante de la prière. Vous savez que le seul nom que Jésus ait donné à sa maison, vous le connaissez, le seul nom, c'est « ma maison » sera appelée une maison de prière. Jésus l'a voulu ainsi, Dieu l'a voulu ainsi lorsqu'il prophétise dans le prophète Ésaïe sur ce que sera l'Église. Il dit « ma maison » sera une maison de prière pour que nous comprenions bien quel est l'enjeu de la teneur de l'Église. Alors lisons ces deux paraboles, s'il vous plaît. Regardez bien l'enseignement qui ressort de ces deux paraboles. Évangile de Luc, chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit... Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ». Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il dit encore cette parabole, « En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, religieux, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, je vous rappelle, c'est Jésus qui parle. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. » Amen. Nous pouvons dire amen, n'oublions pas, souvent je le dis, que c'est une grâce que Jésus soit mort sur le bois de la croix, mais c'est une grâce qu'il y ait tous ces enseignements qui nous permettent de devenir de véritables disciples. Car le but, c'est que nous ne soyons pas des chrétiens de nom, ou des chrétiens qui vivent dans l'illusion, ou des chrétiens qui sont complètement à côté de la volonté de Dieu. Vous avez entendu la prophétie, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. J'avais envie, façon de parler, parce que je l'ai à cœur d'ailleurs, de vous enseigner sur le livre de l'Apocalypse et sur les prophéties de Daniel pour que nous comprenions que nous arrivons au terme de la fin de la dispensation de la grâce et que tout ce que nous voyons nous amène le monde à être mûr pour la colère. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un très grand prophète pour le comprendre. Beaucoup de chrétiens n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Ça m'a profondément interpellé de voir combien des chrétiens n'ont rien compris, ce qui vous prouve, ce n'est pas un jugement, bien sûr, mais ce qui vous prouve combien beaucoup de chrétiens pataugent au niveau de la foi et de la conscience. Ça sert de révélateur, ce qui s'est passé il y a 15 jours, pour montrer que la colère vient sur la terre, mais ça révèle aussi que beaucoup de chrétiens n'ont pas de conscience, et c'est ça craint, vraiment. Et je voudrais vous expliquer ces choses. Je le ferai parce que c'est très, 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 très intéressant. Mais de notre côté, il ne faudrait pas que nous tombions dans le plaisir d'étudier la parole de Dieu en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, ce qui est très 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 intéressant. Et de notre côté, d'être complètement à côté et de passer justement à côté de cette faveur que Dieu aime exaucer la prière. Car la prière, Dieu l'a instituée pour nous exaucer. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, grâce et afin d'être secouru dans tous vos besoins. Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Si d'un côté, Dieu, comme le disait Lucas tout à l'heure dans la présentation des chants, est intéressé à ce que certaines choses soient vécues, il y en a un autre qui est très intéressé à ce que nos prières ne soient pas exaucées. Vous le comprenez ? Croyez-moi, Dieu aime bénir. Toute la parole de Dieu nous montre que Dieu aime bénir, que la prière, c'est afin d'obtenir. Les gens, ils prient, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Ils ne savent pas si la prière dépasse le plafond. Ils ne savent rien. Vous discutez avec eux, ça fait peur. Des chrétiens qui ont pas, je ne parle pas des chrétiens qui ont un an de conversion, qui découvrent. Il y a des chrétiens qui ont 5 ans de conversion, 10 ans de conversion. Ils sont là dans l'abattement. Ils prient, mais ils sont malheureux. Mes frères et sœurs, Dieu répond à la prière. Il entend la prière. Il n'entend pas que la prière. Il entend nos paroles. Si vous croyez que Dieu ne fait qu'entendre nos prières, vous vous trompez. Vous vous rappelez, dans le prophète Malachie, lorsque il s'autorisait à parler, oui, mais Dieu, où est le Dieu de la justice? Vous avez lu le prophète Malachie? Je vous conseille de le lire ou de le relire et surtout de le méditer. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez réaliser que vous pouvez vous identifier à ces gens qui étaient tout le temps en train de rouméguer et de se plaindre. Et où est le Dieu de la justice? On va lire un texte. Ce matin, je peux vous prêcher pendant 3-4 heures. Est-ce que ça vous va? Ça vous va? On va faire un peu plus court quand même. Mais j'aimerais que vous reteniez peut-être ce que Dieu a à vous dire. 3 heures de prédication, ça pourrait être utile, mais je ne pense pas que c'est le but. J'aimerais que vous preniez des notes et que peut-être vous disiez, mais oui, si le pasteur nous exhorte à lire le prophète Malachie, c'est qu'il y a peut-être une raison. Regardez Malachie chapitre 2, verset 17. Vous allez voir que Dieu veut que nous prions. L'église doit être une maison de prière. Et beaucoup d'églises ne prient plus. Des églises ont supprimé la réunion de prière. Ben, ça se comprend, il n'y a plus personne. Mes frères et sœurs, Dieu veut que les chrétiens combattent le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux que Dieu trouvera à la fin l'épée à la main, l'épée de l'esprit à la main? Est-ce que Dieu vous trouvera ainsi ou est-ce que Dieu vous trouvera loin, 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 très loin, à tel point qu'il ne pourra pas vous prendre avec lui? Regardez dans le prophète Malachie. Il faut lire le livre en entier. Je ne sais pas comment vous faites vos cultes personnels, comment vous méditez la parole, si vous ouvrez la Bible au hasard. Il y a déjà, moi je lis la Bible, j'ouvre au hasard, je tombe toujours sur le livre des psaumes. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça pour lire la Bible. Écoutez, le gars qui vous a dit ça, ne l'écoutez pas. C'est ridicule de lire la Bible comme ça. Ça frise l'horoscope, vous voyez, paf. Voilà, je tombe. Bien sûr, si vous ouvrez votre Bible, il va toujours s'ouvrir au même endroit, à force. Ça fait 30 fois que je tombe sur le psaume 21. Ben oui, mais ça fait peine, quoi. Ça fait peine. Regardez dans le prophète Malachie, au chapitre 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Ou c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Tiens donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cette affaire? Ah, si Dieu était si puissant, il ne tolérerait pas ce qui se passe en ce moment au Niger. Il ne tolérerait pas ce qui se passe en ce moment en Corée du Nord. Si ton Dieu était si puissant. Mes frères, je vous conseille de relire la Bible avec le cœur. Et vous verrez que tout ce qui arrive n'a rien à voir avec ce que Dieu a voulu, mais à voir à ce que l'homme a lui choisi. Lisez la parole de Dieu. Lisez la prière de Moïse, je pense à la prière de Moïse à la fin du Deutéronome, et vous comprendrez pourquoi un peu mieux certaines choses. Où est le Dieu de la justice? Et nous nous étonnons que Dieu ne réponde pas à la prière. Moi je comprends, je sais qu'un des signes de la fin des temps, c'est l'apostasie, que l'église de la fin des temps va être en vrac, comme on dit, mais qu'il y aura quand même des vainqueurs. et que Dieu va venir chercher l'épouse, comme le disait la prière de Geneviève. Oui, Dieu va venir chercher l'épouse. Il ne va pas prendre l'église qui n'est pas prête. Il prendra une épouse qui est prête, sans rides et sans tache. Ça, c'est clair qu'il y a une véritable épouse. Il y a de véritables chrétiens qui sont prêts. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts. Et c'est pour cela que quand j'entends, moi, on ne fait plus de réunions de prière. Et bien, depuis qu'on joue, on fait des échecs avec les personnes âgées. Il y a du monde depuis qu'on joue aux échecs. Ah oui, c'est clair. On joue aux dames, pour ceux qui ne savent pas jouer aux échecs. On fait du social. C'est bien l'église. On se régale depuis. Il y a une bonne ambiance. Eh, mes frères et sœurs, je pense que là, ça va mal. Je ne suis pas contre les dames et les échecs. Et les jeux de société en général. Je pense même que c'est une saine activité. Mais quand on remplace la réunion de prière par une réunion de jeux de société, moi je trouve que c'est très inquiétant. Le Seigneur l'a dit, il a donné un seul nom, je le répète, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais franchement, mes frères et sœurs, la question que chacun d'entre nous devons nous poser, n'y a-t-il pas dans ma vie des comportements qui font obstacle à la prière? Alors on pourrait en citer des dizaines. Par exemple, celui qui ne prend pas soin des siens. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Il parle aux chrétiens. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Dieu vous a donné une épouse, Dieu vous a donné un mari, Dieu vous a donné des enfants. Est-ce que vous prenez soin d'eux? C'est écrit ou c'est pas écrit? Que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Ah, moi je comprends, je ne veux pas juger. Mais quand même, je comprends pourquoi il y a des églises qui prient plus, pourquoi il y a des chrétiens qui prient plus, pourquoi il y a des chrétiens qui sont embarqués dans un pessimisme et un découragement. Le problème, c'est que non seulement ils sont découragés, mais ils découragent les autres. Parce que quand on est découragé, ne vous inquiétez pas, on finit par décourager les autres. Même si on se résigne, on dit non, ça ne va pas, mais je vais leur faire du bien. Écoutez, ça tient un moment, ça. Celui qui n'a pas soin des siens, et ne dites pas, ah ben moi j'ai pas le temps. Ouais, mais si tu savais comment elle est ma femme, si tu savais comment sont mes gosses, eh bien oui, mais Dieu te les a donnés. Et moi, je crois que c'est une bénédiction d'avoir un conjoint. Alors, il y a des gens, quand ils sont célibataires, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de conjoint. Quand ils sont mariés, ils sont malheureux parce qu'ils préfèrent être célibataires. Et quand ils sont... Non, mais ne riez pas. Quand ils sont mariés, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de gosses. Ah, ils voulaient un garçon, j'ai eu une fille. Moi, je préfère avoir une fille parce que... Non, mais écoutez-moi. Quand ils sont en activité, ils attendent la retraite. Quand ils sont à la retraite, ils râlent parce qu'ils ne travaillent plus. Ça vous fait rire, mais moi, je vous assure, ça me fait mal au cœur. Ça vous prouve combien les gens n'ont rien compris. Mes frères et sœurs, ce qui est important, je vais vous dire, ce qui est important, c'est le 1er février 2015. C'est le présent. Et si Dieu vous a pas encore donné de conjoint, il sait pourquoi il ne vous a pas donné de conjoint. Si Dieu a repris votre conjoint, il sait pourquoi il a repris votre conjoint. Oui ou non? Est-ce que Dieu est tout puissant? Est-ce que Dieu est souverain? Mais je comprends pourquoi tant de... Moi, ça me fait mal au cœur quand un pasteur me dit, bon, on a arrêté les réunions de prière. Mais c'est le début de la fin. Une église doit vivre dans la prière, on doit vivre dans l'intercession. Quand quelqu'un est né de nouveau, il devient un intercesseur. Oui ou non? Je ne sais pas à quoi Dieu peut vous appeler, à un service ou à un autre, ça c'est clair. Mais une chose est sûre, tous les chrétiens doivent devenir des intercesseurs. Alors si vous ne priez plus, parce que vous êtes peut-être paresseux, mais peut-être que vous êtes paresseux parce que Dieu n'exauce plus vos prières et vous êtes tombé dans le comportement des croyants du temps de Malachie, « Oh ben moi je prie plus, ça sert à rien, j'ai pris ce livre pour vous rappeler que Dieu ne fait pas qu'écouter nos prières, il écoute aussi quand on parle. » Dans ce chapitre, au chapitre 3, Il y a eu, justement, Dieu a parlé par le prophète, parce que Dieu voulait le secouer, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que le secouer, ça fait un petit peu, c'est un petit peu rébarbatif. Je pense que Dieu voulait les interpeller vraiment. Ils étaient là, ils se plaignaient, etc. Et c'était par rapport à la dîme, mais ce n'est pas que par rapport à la dîme. Ce n'était pas par rapport à la dîme. Vous voyez, au verset 13, c'était lié à d'autres paroles aussi. Tout ce contexte, c'est la dîme. Mais le contexte, il n'y a pas que ça. Regardez, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et que nous qu'avons-nous dit contre toi? En plus, on a le toupet, vous voyez, de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu.
voyez ?
Vous vous dites, mais c'est pas grave. Mais Dieu dit que ce sont des paroles dures. Parce qu'il faut vraiment être mal en point pour dire, c'est en vain que je sers Dieu, c'est en vain que je prie, c'est en vain que je vais à l'église. Mes frères et sœurs, ce sont des paroles dures. Dieu a créé l'église et il a payé cher pour que l'église soit vivante, pour que l'église naisse. Vous savez le prix que Jésus a payé pour créer l'église. Et au verset 16, il y a des gens intelligents, heureusement. Et j'espère qu'il y en a ce matin dans ce lieu, des gens qui disent, mais quand même, c'est vrai, il faut que je me ressaisisse. Alors ceux qui craignent l'Éternel, vous avez vu, c'est au présent en plus, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Il y a des gens qui disent, mais il faut qu'on se bouge, il faut faire quelque chose. L'Éternel fut attentif, il prie pas, hein, il parle. Et il, comment vous avez dans votre Bible ? Et il écouta. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que la prière. Vous avez entendu le don spirituel, où Dieu s'adresse à quelqu'un, peut-être à plusieurs personnes, que Dieu ne se plaît pas en compagnie des moqueurs. Et si vous aimez les guignols de l'info ou tous ces trucs-là, je ne sais pas si ça existe toujours, si vous aimez ces trucs-là, laissez-moi vous dire que Dieu ne marche pas avec vous. C'est écrit, vous l'avez entendu. Et je peux vous dire, cette parole, elle vient vraiment du Seigneur. Mes frères et sœurs, si vous aimez la moquerie, moi, je vous conseille de vous en éloigner. Malheur, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Malheur à l'homme qui marche en compagnie des pécheurs, qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Malheur, malheur, soyons peut-être plus cool, comme on dit aujourd'hui. Malheureux, c'est pareil. Il y a des chrétiens qui sont malheureux, je ne comprends pas, je suis malheureux, je suis toujours le cafard, je suis toujours déprimé. Ça peut arriver, il y a des moments de difficiles, il y a des moments de combat, il y a des mauvais jours, je le sais. Mais mes frères et sœurs, vous comprenez bien que si vous aimez la moquerie, vous en porterez la peine. C'est écrit que le mot de cœur, il portera la peine. Je pense qu'il y a un temps pour rire, il y a des choses risibles, il y a des choses marrantes. Mais mes frères et sœurs, on ne se plaît pas en compagnie des moqueurs. Si vous vous plaisez en compagnie des moqueurs, restez ici. Mais je peux vous dire que vous êtes déjà rétrograde. Et ce n'est pas la peine que vous priez. À moins la prière du pécheur vraiment contrit, pas qui fait du cinéma. La prière du pécheur contrit qui dit, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Je me plais à regarder ces choses, ça me marre, ça me fait rire 5 minutes. Oui, mais en vérité, ça vous éloigne de Dieu. Mais non, ce n'est pas possible, ça ne m'éloigne pas de Dieu. La preuve, je suis là ce matin. Vous croyez que c'est parce qu'on est là ce matin qu'on est proche du Seigneur ? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est proche du Seigneur. On est proche du Seigneur quand on obéit à sa parole. Quand la crainte revient. Vous voyez, dans le prophète Malachie, ils ont réagi à force. À force. À force, bon, le prophète, il y en a qui ont dû lui dire, oh, mais bon, il est trop dur. Il y a des gens. Il y a des gens. Et je peux vous dire, cette semaine, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé par rapport à des personnes qui sont malades et qui prient pour rien. Parce que des fois, quand on est malade, il vaut mieux pas prier. Il vaut mieux peut-être demander pardon à quelqu'un à qui on a mal parlé. Cette semaine, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui étaient malades et qui ont été guéries lorsqu'elles ont demandé pardon. Moi, je crois à la puissance de la guérison par le sang de Jésus. Moi, je crois à la puissance de la guérison par l'onction d'huile. Je crois que le Seigneur Jésus, il est mort, pas que pour nos péchés, mais aussi pour nous guérir. Mais on peut être malade parce qu'on a critiqué. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Pas qu'il parle à Dieu, qu'il prie. C'est-à-dire qu'il écoute peut-être Dieu lui montrer ce qui ne va pas. Peut-être que vous avez critiqué. Il y a une sœur qui m'a appelé cette semaine pour me dire qu'elle a fait une expérience extraordinaire de guérison. C'est bizarre. Juste avant, les jours avant, elle a demandé pardon à sa fille parce qu'elle avait critiqué sa fille. Elle a demandé pardon à son pasteur parce qu'elle n'arrête pas de le critiquer. Il y a des gens, ils sont tout le temps dans la critique. Et ça, c'est grave, parce que le problème, c'est que le diable, lui, se frotte les mains. C'est comme ça que des gens arrêtent de prier, parce qu'ils ont de la haine. Hein. Ils ont de la haine. Vous avez vu le gars qui est dans le temple ? C'est bizarre que Jésus ait donné 2 paraboles, une pour montrer qu'il faut toujours prier, et l'autre, il parle de ce pharisien qui était un pro de la prière, parce que les pharisiens, croyez-moi, on les avait enseignés à prier. Ils priaient même au coin des rues, et ils priaient pendant 1 heure. Ça fait que le gars qui allait acheter le pain, il revenait. Oh, t'as vu ce gars, comment il est pieux ? Et il prie, ça fait 1 heure qu'il est au coin de la rue. En plus, il fait froid, et il prie. Ils ont leur récompense. Ah ben oui, ils ont leur récompense de la part des hommes. Mais moi, la récompense de la part des hommes, je vais vous dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je préfère l'approbation divine. Et Jésus donne cette parabole. Vous l'avez lu avec moi. Se persuadant qu'ils sont justes. Il prie, le gars, il fait tout ce que Dieu demande. Il prie, il jeûne, il donne sa dîme. Tous les pasteurs veulent ça. Que les gens, ils prient, que les gens, ils jeûnent, que les gens, deux fois par semaine, tu jeûnes deux fois par semaine. Ah, qu'est-ce que tu es un bon chrétien. Ils s'imaginent qu'ils sont justes et ne font qu'un cas des autres. Si vous ne faites pas cas de votre femme, si vous ne faites pas cas de votre mari, mes enfants, ah, les enfants, je sais que les enfants, ça peut être dur parfois. Mais est-ce qu'il ne faut pas être là pour les écouter? Ah, je crevais. Non, mais tu ne comprends pas, toi. Si tu ne bosses pas, toi. Oui, c'est vrai. Je l'ai entendu, moi. Vous, les pasteurs, vous bossez le dimanche matin? Oui, c'est vrai. Et des fois, on se fait remplacer. Quand on en arrive là, c'est quand même... Je l'entends, ça. Je l'ai entendu, ici. Vous avez du bol, vous. Vous ne travaillez pas. Mes frères et sœurs, quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu parles, Dieu t'entend. Quand tu es devant ta télé, Dieu te voit. Et une chose est certaine, Dieu attend l'obéissance. Pas une foi morte et incohérente, une foi vivante. Dieu a écouté ces gens parler. Au bout de la 5e ou 6e fois, il y en a qui ont dit, mais bon, ça suffit, peut-être qu'il faudrait écouter le prophète. Parce que c'est bien joli de demander pardon. Il y a des gens qui demandent pardon tous les dimanches. Pardon. Alors, je ne veux pas les critiquer. Je ne veux pas critiquer, parce que ça m'est arrivé, croyez-moi aussi. Mais je crois que la vie avec Dieu, ce n'est pas tout le temps demander pardon. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie. Le Notre Père, il est baigné de pardon, oui ou non? Il baigne dans le pardon, on a besoin de demander pardon. Mais si notre vie avec Dieu, c'est que demander pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, le seul commentaire que Jésus fait par rapport à la prière, c'est par rapport au pardon, justement. Il explique exactement comment la volonté de Dieu peut soit faire, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le seul commentaire qu'il fait après avoir dit que c'est à Dieu qu'appartient la puissance, au fait, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et vous connaissez toutes les paraboles qui prouvent qu'on est enfermé dans. On est enfermé, emprisonné, tant que nous ne pardonnons pas. Le pardon, mes frères et sœurs, ça doit être quelque chose d'inconditionnel. Moi, je vous assure, je suis profondément frappé par le nombre de chrétiens qui ne vivent pas dans le pardon. Ah, moi, je pardonnais, écoutez, ça suffit maintenant. Ça fait 10 fois qu'il me fait le coup, il y en a marre. Maintenant, qui se débrouille? Heureusement que Jésus n'a pas fait pareil. Et Jésus, la première chose qu'il a fait quand on l'a crucifié, après tout ce qu'il venait de vivre, il a dit, pardonne-leur. Il n'a pas enseigné le pardon auprès du lac de Galilée, au sermon sur la montagne, ça devait être merveilleux. Il a vécu dans le pardon. Il a pardonné. Et s'il dit, Père, pardonne-leur, ça veut dire que lui, il avait déjà pardonné. C'est ça que ça veut dire aussi. Mes frères et sœurs, l'Église qui sera debout, l'épouse, parce qu'il y a une épouse qui sera prête. Je parle, vous avez compris la différence entre l'Église et l'épouse. L'épouse, elle est obligatoirement prête. Ce sont des hommes et des femmes qui prendront au sérieux ces choses et qui régleront les problèmes que le Saint-Esprit leur montrera. Je vous parlais de cette femme qui a fait une expérience extraordinaire. Elle l'a fait après avoir demandé pardon. Et si vous avez ce travers de critiquer, moi je l'ai fait, il a fallu que je demande pardon à je ne sais pas combien de pasteurs, à une réunion de pastoral, il a fallu que je le fasse, mais je l'ai fait, ça m'a coûté ou pas, ça m'est égal, j'ai dû le faire, parce que je voyais bien que mes prières n'étaient pas exaucées, c'est bizarre comme elles l'ont été après. Et nous devons être absolument sérieux. Si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Avant de présenter ton offrande, tout à l'heure on va présenter l'offrande. Est-ce que c'est une bénédiction d'apporter l'offrande au Seigneur? Ben oui. Quand je vois ce qu'on a pu faire encore le mois dernier, le mois de janvier, pour le Niger, quelle bénédiction, les milliers d'euros qu'on peut envoyer. Est-ce que c'est une bénédiction d'aider ses frères et sœurs? Croyez-moi, quand vous serez au ciel, il risque d'avoir quelques frères et sœurs de couleur qui vont venir vous remercier. Vous risquez de faire, on risque de faire la queue dans le ciel. par rapport à tous les... Bon, c'est une façon de parler. Mais laissez-moi vous dire, mais c'est extraordinaire. Mais à quoi ça sert? Jésus le dit, mais si tu présentes ton offrande et que tu te souviennes, dans la conscience, elle doit travailler. Si tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec lui. S'il ne veut pas, ben il ne veut pas. Soyez en paix avec tous les frères, d'autant que cela dépend de vous. Mais faites-le. Et si vous avez cette tendance fâcheuse à critiquer, mais prenez la victoire. Moi, j'ai prié, j'avais tendance à critiquer. C'est de l'orgueil en plus. C'est de l'orgueil. On se croit meilleur que l'autre. On critique parce que, bien sûr, je suis meilleur. Moi, je prêche mieux que M. Olé. Mais ouais. Non, mais attendez. Ben, j'ai jamais pensé ça. Je ne l'ai jamais pensé parce que M. Olé, en plus, est enseignant et moi, je suis pasteur. Mais mes frères et sœurs, je ne l'ai jamais pensé. Mais c'est pour vous donner une idée. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous devrions quand même être sérieux avec cette affaire de prière. Vous savez, cette semaine, vraiment Dieu m'a interpellé. Vous connaissez tous les textes qui montrent que ça va très, 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 très loin. La paresse, c'est un truc grave. Je ne parle pas de la fatigue où des fois on est obligé de s'arrêter une semaine parce qu'on est crevé. Ça peut arriver ça? Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr, ça peut arriver. Mais moi je fais la différence entre un moment de fatigue, un coup de blues, etc. Pendant 3-4 jours je suis fatigué, je me repose, ça c'est normal. Et puis la fatigue chronique de tous les jours. La paresse. Il y a des chrétiens qui sont d'une paresse pas possible. Il y a des choses que Dieu veut que vous fassiez. La semaine dernière, nous avons eu une réunion avec les anciens. Je cherche Jansson parce que je l'ai entendu. On a eu une discussion. On a fait ressortir 2 ou 3 aspects de ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement. Des trucs de fou. Il y a des églises qui ont 40, 50, 60 ans d'existence. Et dans ces églises qui ont 60 ans d'existence, on n'a pas été capable de former un ancien dans ces églises. Non, mais Jansson disait c'est un drame, mais c'est un grand drame. Alors, moi je pense que ça vient des pasteurs, à 50%. Vous savez, c'est qu'on a les couples, 50-50. Mais je pense aussi que ça vient des églises, où les chrétiens ne font pas ce qu'ils devraient faire. Donc, comme ils ne le font pas, eh bien le pasteur le fait. Moi, ça m'est arrivé souvent, on me le dit. Moi, je vous assure, je vous ouvre mon cœur, parce que vous me connaissez, ça va faire 17 ans que je suis là. Mais mes frères et sœurs, combien toutes les semaines? Moi, cette nuit, je me suis réveillé. J'ai marqué sur un papier les choses qu'il me faut faire dans la semaine. Au bout d'un quart d'heure, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne le ferai pas. Je vais en faire certaines parce que je sais qu'il me faut en faire. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs. Nous voulons voir Dieu bénir. Nous voulons voir Dieu exaucer nos prières. Nous voulons voir nos enfants bénis. Est-ce que vous voulez voir vos enfants sauvés? Tous vos enfants sauvés. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous croyez que Dieu vous a donné des enfants pour qu'ils aillent en enfer? Tous vos enfants, Dieu veut les sauver. Mais chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question, est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Je vais vous donner un exemple. Vous allez trouver ça peut-être bête et peut-être terre à terre. C'est pas grave. Moi, j'aime bien que les choses soient propres. Dans la cour, ça fait moi qui a dans un carton des bouteilles, des décors, des cartons. Et un jour, j'ai failli l'enlever. Et j'ai senti qu'il ne fallait pas le faire. Que Dieu l'avait demandé à quelqu'un et que quelqu'un ne l'a pas fait. Je vais le faire tout à l'heure. J'ai attendu un mois. Vous allez me dire, est-ce que vous êtes payé, M. Gaud, par l'église, c'est à vous de sortir le poêle. Très bien. Moi, ça me va très bien. Mais vous croyez que Dieu peut nous éprouver pour faire certaines choses? Peut-être que vous êtes peintre dans l'église, peintre, tapissier. Pourquoi vous n'utiliseriez pas ce talent pour peindre une pièce qui a besoin d'être rafraîchie? Est-ce que Dieu peut vous le demander? Je prends un exemple, entre 1000, parce qu'il faut que ce soit concret. Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis? Vous avez lu le prophète Agé? Est-ce que vous l'avez lu? Vous lirez le prophète Agé? C'est à la fin, vous savez? Les petits prophètes, vous lirez ces chapitres? Quand Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez soin de vos maisons. Est-ce que c'est bien de prendre soin de sa maison? Est-ce que vous aimez que votre maison soit propre, bien ordonnée? Est-ce que c'est bien? Des fois, moi, je suis dans des maisons, c'est magnifique comment c'est propre, ordonné. Et c'est bien, soyez propre, ordonné. Mais Dieu, regardez dans Agé. Et je crois que le problème, il vient que les gens ne lisent pas la Bible avec le cœur. Quand vous lisez le prophète Agé, et que Dieu répète à plusieurs reprises, mais considérez attentivement vos voix à considérer, c'est pas regarde vite fait, considérez attentivement vos voix. Et quand il dit, voyez, on pourrait, verset 8, verset 7, Agé 1, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est pas Gérard Gou, c'est le Seigneur. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Pourquoi, dit l'Éternel des armées ? À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressiez, chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et vous lirez la suite, vous voyez que Dieu montre que les chrétiens font passer leur intérêt personnel avant l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est important l'œuvre de Dieu pour vous ? Mais je vous pose la question, répondez au Seigneur, pas à moi, c'est pas le moment. Mais répondez au Seigneur. Est-ce que le bien-être de la maison du Seigneur, c'est important ? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des gouttières partout là ce matin, dans l'église ? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des gouttes partout, que le chauffage ne marche pas ? Vous aimeriez ? Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous savez, des fois, les prédications, c'est un peu théorique. Mais pratiquement, est-ce que vous pouvez tous dire à Dieu, je sais ce que tu m'as demandé de faire, tu m'as donné un talent, tiens, c'est vrai, je parlais tout à l'heure de peintre, de tapissier, tiens, mais peut-être que je suis mécano. Peut-être que je suis mécano. Tiens, quand la voiture de l'église tombe en panne, et bien pourquoi je le ferai pas moi ? Ça va économiser 300 euros à l'église. Les 300 euros, est-ce qu'on pourrait pas acheter une tonne de mille à la place, une tonne et demie au Niger ? Est-ce que vous pensez que ça peut plaire à Dieu, cette affaire ? Mais moi, j'ai pas le temps. Monsieur Gauche, j'ai pas le temps. Écoutez-moi, il va falloir que nous réglions. Je pense que là, je vais pas non plus faire le faux humble. Je pense qu'il faut régler ce problème. Parce que les paresseux dans la parole de Dieu, ça se finit très mal. Vous connaissez la parabole des talents ? Le gars qui enfouit le talent. C'est un chrétien, un serviteur. Il a enfoui le talent, il a trouvé plein d'excuses. Et ça, avec les hommes, ça passe toujours, les excuses avec les pasteurs, avec les églises, tout ça, ça marchera toujours, vous inquiétez pas. Mais avec Dieu, ça ne passera pas. Et quand le maître de la maison reviendra, ça ne va pas se passer comme ça se passe ici. Quand le maître de la maison reviendra, il va falloir que je m'explique. Et que je puisse lui dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Du talent que tu m'avais donné. Parce que celui qui n'a pas fait valoir le talent, Dieu lui dit pas, bon, mais c'est pas bien, méchant et paresseux, bon, ben écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Quelqu'un peut me dire la conclusion de cette parabole ? C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que Jésus lui dit à ce chrétien ? Oui, mais c'est pas tout. Encore, il va ôter le talent. Il va ôter le talent, bon. Mais je peux être sauvé. Mais ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus grave. Regardez dans Matthieu 25. C'est beaucoup plus grave. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh mais moi, du moment que je suis sauvé, mais ça suffit. Je suis sauvé, je vais au ciel. Moi, les récompenses, j'en ai rien à faire de récompenses. Mais moi, je ne sais pas si c'est révélateur. C'est révélateur d'un mauvais état d'esprit, ça. Oui, alors Geneviève dit, ôtez-lui le talent. Ça, c'est le verset 28 du chapitre 25. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Dans le ciel, on va avoir de drôles de surprises lorsque les récompenses vont être faites. Mais il ne faut pas le faire pour les récompenses. Il faut le faire de bon cœur. Matthieu 25, verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. La parabole. Oui, c'est une parabole, mais c'est un enseignement. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas le verset 30 encore. On pourrait dire, bon, ça va, c'est pas trop grave. Le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, il vous faut être très honnête devant Dieu, parce que moi, je sais que je rendrai compte à Dieu. Mais vous aussi. Est-ce que vous êtes paresseux parce que vous avez pris le pli d'être paresseux ? Parce que vous vous êtes mis dans la tête, si moi je le fais pas, c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera. Ou est-ce que vous êtes vraiment paresseux parce que vous n'avez pas de communion avec Dieu? Et là, c'est grave. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est évident. Mais quand même, quand on est sauvé, on doit avoir une véritable communion avec Dieu qui va nous permettre de faire des choses auxquelles Dieu nous a appelés. Peut-être c'est qu'un talent, peut-être que moi j'en ai reçu qu'un, peut-être vous en avez reçu 10. Ben c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus aptes à faire ou à ne pas faire. C'est pas trop grave ça, la quantité de talent qu'on a reçu. Mais on en a tous reçu un. Tiens donc, la voix, c'est pas un talent la voix? La voix, c'est pas une grâce d'avoir une voix? Si vous étiez muet depuis 10 ans, 15 ans, et que Dieu vous guérisse, quelle est la première chose que vous feriez? Sérieusement, vous êtes muet depuis 1980, et dans la semaine, Dieu vous a guéri, vous pouvez tout à nouveau parler. Qu'est-ce que vous faites le dimanche après? Vous allez à l'église et vous taisez-vous tous. C'est moi qui vais louer le Seigneur ce matin. Vous trouvez que ça serait normal? Mais bien sûr, ce serait normal. On n'a pas reçu, mais ce n'est pas une grâce de pouvoir parler. Ce n'est pas une grâce de pouvoir s'exprimer, d'écouter un sermon par un gars qui parle. Moi, j'ai été bloqué par la voix pendant quelques jours. Et je sais que j'aurais pu rester handicapé. Je le sais. Même si je l'ai bien vécu, je sais très bien. Je bénis Dieu d'avoir vécu ça. C'est une grâce de pouvoir parler. Donc c'est déjà un talent. Seigneur, ce talent que j'ai, plutôt que d'utiliser tout le temps à critiquer l'un, à critiquer l'autre, eh bien, je vais l'utiliser pour te louer, pour être bon. Tout à l'heure, on a un jeûne et prière. Eh bien, je vais prier. J'ai pas de gosse. Eh bien, je vais prier pour les enfants de mes frères et sœurs. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants. Vous n'en avez pas eu. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est une bénédiction de prier pour ceux qui en ont? Le serviteur inutile. Et c'est la question que je nous pose. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes utiles? Ou est-ce que vous êtes inutiles? Vous devez. Si c'est moi qui vous pose la question, bon, c'est bien, ça prouve que je m'intéresse à l'Église. Mais si c'est Dieu qui, au travers de mon ministère, vous pose la question, moi je vous conseille vraiment d'être sérieux. Est-ce que vous êtes un serviteur utile? C'est-à-dire, voilà, j'ai à cœur, tiens, la pastorale, ah mais oui, mais moi je vais offrir un gâteau. Voilà, c'est des petites choses. Tiens, madame untel, plutôt que de râler parce qu'elle n'est pas visitée, eh bien pourquoi je n'irai pas la visiter, plutôt que de regarder des bêtises. Monsieur Gou, allez, moi je vous assure, moi c'est un cas de conscience. Monsieur Gou, allez visiter un tel, allez visiter une telle, allez visiter... Mais je sais très bien que ça part d'une très bonne intention. Mais moi, je crois que Dieu veut que je cherche sa face. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le sens vraiment, je le sais. Demain, on a une pastorale et je voudrais que l'on puisse avancer dans les travaux. Pour les églises, pour le salut des âmes, pour que les églises deviennent ou redeviennent ce qu'elles devraient être. Êtes-vous un serviteur utile? Êtes-vous une servante inutile? Est-ce que vous êtes tout le temps dans cette espèce de morosité, de tristesse, et de critique? La critique, c'est vraiment révélateur. Il y a des choses que l'on peut dénoncer. On peut dénoncer des choses. Moi, il y a des choses... Moi, ça, je regarde presque plus les infos, ça m'énerve. Mais il y a des choses, moi, quand je les vois, je les plains. Mais il est dit que c'est bon de prier pour ceux qui nous gouvernent. Moi, ceux qui nous gouvernent, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Mais tous les jours, je prie pour eux. Parce que la Bible dit qu'il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Cela est bon devant Dieu. Et je ne veux pas les critiquer. De toute façon, ce n'est pas la peine, parce que c'est sûr que les choix qu'ils font, les choix qu'ils sont en train de faire, je peux vous dire qu'ils vont faire mûrir la colère. Mais on n'est pas là pour les critiquer. Même si on a notre idée, qu'on soit de gauche ou de droite, il n'y en a rien à faire. Mais mes frères et sœurs, je veux prier, parce que c'est écrit, avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. Cela est bon. Vous avez envie de vivre de bonnes choses dans votre cœur? Eh bien, prions pour ceux qui nous gouvernent. Et le problème, mais c'est grave. Moi, j'ai entendu dernièrement un chrétien qui a dit, mais le chef de l'État, c'est... Et je vous dis pas le mot qu'il a utilisé. Eh bien, on est obligé de dire à ces gens, arrêtez de prier. C'est pas la peine. Oh, je crois que je me mêle, je peux dire ce que je pense. Vous voyez comment, dans quel état on est? Mes frères et sœurs, les œuvres sont la preuve que l'on a une communion avec le Seigneur. Et quand on a une communion, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Mes frères et sœurs, écoutez, il faut que vous répondiez au Seigneur. On va prendre la Sainte Cène. Peut-être que vous avez besoin de pardonner. Eh bien, demandez pardon. Ça coûte quoi d'écrire à quelqu'un et lui dire, tu sais, je te demande pardon parce que je t'ai critiqué. Arrêtez de prier. Mais monsieur Gault, mais vous venez de dire, vous voulez savoir ce que vous voulez, vous venez de dire qu'il faut toujours prier. Oui, mais il faut prier intelligemment. Hier, je lisais tous les textes, parce qu'il y a des milliers de textes sur la prière. Quand il est dit dans Genèse chapitre 6 ou 5, c'est là que l'on commença à invoquer l'Éternel. C'est magnifique. Le monde entier s'est mis à prier le Seigneur. Oh, mais c'est merveilleux. Le chapitre d'après, ça leur a pas servi à grand-chose, parce qu'il y a eu le déluge, et quand je vois le monde qu'il y avait dans l'arche, je me demande à quoi ça leur servait de prier. Mais c'est exactement pareil aujourd'hui. Il y a plein de gens qui prient, ils prient, ou ils récitent des prières. « Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille. » « Oh, puis de toute façon, j'en ai marre, je prie plus. » Mais vous croyez que c'est comme ça, que ça va se passer? Quand Salomon dédicace le temple, il fait une prière, Dieu va l'exaucer, et il dit pas « si mon peuple prie, et si mon peuple cherche ma face, et si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai ». Il dit d'abord « si mon peuple s'humilie ». Et ce qui devrait se produire maintenant qu'on va prendre la Sainte-Seine, c'est de dire « mais Seigneur, il faut que je sois humble, il faut que je m'humilie, il faut que je retrouve cette raison. À quoi m'appelles-tu à faire ? C'est bien que dans l'Église, il y ait des frères, il y ait des sœurs, il y ait des diacres, des diaconesses. Mais moi, je vais passer devant Dieu. Est-ce que je suis ce serviteur inutile ? Est-ce que c'est à Monsieur Gault d'aller visiter tous les mois cette même grand-mère ? Quoique ça me fait plaisir. Ce soir, moi, je pense qu'après, j'irai faire des visites. Je l'ai à cœur. » Si ma santé me le permet. Mais mes frères et sœurs, quand il est dit, vous rappelez, le jour du jugement des nations, vous y croyez au jugement des nations? Vous croyez à tout ce que Jésus a dit, qu'au jour du jugement, la reine de Séba se lèvera, au jour du jugement, les gens de Ninive se lèveront et condamneront cette... Vous le croyez ce que Jésus a dit ou c'était blague? Nous, tout ça, c'est un peu virtuel. Quand Jésus dit, mais le jour des nations, Dieu séparera les brebis d'avec les boucs. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis. Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, maudits, allez dans le feu éternel. Mais non, mais ce n'est pas pour nous, ça. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, venez. Car toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Mais quand nous avons fait ceci? Quand avons-nous donné un verre d'eau? Avez-vous visité un malade, un prisonnier? Quand on va jeûner tout à l'heure, c'est une façon de visiter les prisonniers. Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas une façon de visiter les prisonniers? Que de prier pour eux? Et vous n'avez pas une heure à donner pour prier pour les frères et sœurs? Monsieur Olé m'a donné un témoignage tout à l'heure d'un pasteur de Tombouctou, hein, du Mali, qui a été épargné d'un attentat. Mais moi, je suis sûr que c'est parce qu'on a prié pour lui. Enfin, nous, les chrétiens. Vous le croyez, ça, ou non? On le lira tout à l'heure, j'en ai prière. Ah, mais moi, j'ai pas une heure, moi, j'ai pas le temps, monsieur Gault. J'ai faim. Vous savez, mes frères et sœurs, le jour du jugement, il approche. Nous ne connaîtrons pas le jugement, la condamnation. Mais certains chrétiens connaîtront les ténèbres. Pour la simple et unique raison qu'ils n'auront pas été sérieux avec Dieu et qu'ils se seront fait croire que parce qu'ils allaient à l'église, ils aimaient Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on va à l'église. On aime Dieu parce que l'on obéit à sa parole. Et c'est une joie d'obéir. Est-ce que c'est une joie d'obéir? Est-ce que c'est une joie de se tenir devant Dieu et de dire, mais Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas vous abrutir de travail. Dieu ne va pas vous demander d'aller faire 50 000 choses. Dieu peut vous demander une chose. Je le disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes mécano. Bien sûr que nous, on peut à l'église, on n'est pas à 2 000 euros près, 3 000 euros près pour faire réparer une voiture. Ce n'est pas le problème là. Mais c'est peut-être quelque chose que Dieu vous demande. Vous n'y pensez même pas. Mais lisez, et vous verrez que les gens, ils n'y pensaient même pas. Lisez ce qui s'est passé du temps d'Ézéchiel, lisez ce qui s'est passé du temps de Jérémie. Il y avait un aveuglement, mais c'était des frères. Hein. C'était des frères. Des croyants comme vous et moi. Qui n'ont même pas eu le réflexe de dire, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? La pastorale, ah mais c'est bouclé la pastorale. Il y a tout le temps une vingtaine de personnes qui font à manger pour les repas, pour les pasteurs, c'est super, c'est génial, merci Seigneur. Mais est-ce que vous comprenez que Dieu peut vous demander quelque chose à vous? Ou est-ce que vous ne le comprenez pas? Si vous ne le comprenez pas, vous êtes vraiment mal. Et moi, je suis votre pasteur. Je dois vous aider à ce que vous soyez bien, à ce que vous fassiez de bonnes choses, à ce que vous puissiez dire, mais oui, tu m'as donné une voix, je suis timide, mais je vais l'utiliser. Peut-être je n'ose pas prier dans l'église, mais à la maison, je vais apprendre à chercher Dieu. Je vais apprendre à chercher la face de Dieu. Je ne veux pas faire partie de ces gens à qui Dieu va dire, retirez-vous de moi. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Je suis la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je dois pouvoir dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous ai raconté, je crois, il y a quelques mois de ça, ou un an ou deux, j'avais été dans une église, j'étais en congé. Mais le pasteur m'avait dit, si vous venez, dites-le moi, comme ça vous prêcherez. Bon, alors comme je lui avais dit, oui, je vous dirai si je viens. Alors je l'ai appelé, et il m'a dit, bon, mais vous prêcherez dimanche. Alors moi, ce que j'ai fait, vous savez, j'ai fait quelque chose, c'est peut-être pas bien. Quand on prêche, quand on va dans une autre église, on prend les 3 ou 4 prédications qui ont fait du bien à l'église. Et je me suis dit, tiens, tu vas prendre ces 3 ou 4 prédications, et tu en prendras une, tu te tiendras une heure devant Dieu samedi. Et voilà. Et je tiens, c'est là, ça ferait du bien à l'église. Et dans la nuit, à 3 heures du matin, une voix. Je savais que c'était Dieu. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. C'est un texte dans Tite. Je l'ai entendu, incapable d'aucune bonne œuvre. J'ai entendu la voix de Dieu dans la chambre. J'étais chez ma fille, on dormait chez ma fille. Je me suis dit, bon, j'étais dans la salle de bain pour réveiller Perton. J'ai pris ma Bible, un papier, un crayon, taqué dans la salle de bain, coincé. De 3h à 6h, j'ai préparé ma prédication. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi j'avais préparé une prédication. Et puis Dieu m'a réveillé. Et voilà, j'ai quelque chose à vous dire, ça ne va pas vous faire rire, croyez-moi. Mais voilà, dans l'église, je pense que beaucoup sont dans ce problème. Vous êtes incapable d'aucune bonne œuvre. Le pasteur, il me regardait, je vais dire, ah, peut-être j'aurais pas dû lui demander. Et à la fin, il y en a plusieurs qui sont venus en pleurant. Plusieurs, en pleurant. Mon Dieu, Monsieur Gau, c'était pour moi. Et ces gens étaient remplis de reconnaissance, tout en le fait qu'ils pleuraient, mais parce que Dieu leur avait parlé. Et je voudrais ce matin que nous nous rendions bien compte qu'il ne faut pas que nous nous contentions d'une assemblée qui marche à peu près bien. Il faut que chacun d'entre vous, vous disiez, mais voilà, si ce soir Dieu me reprend, est-ce que je vais partir avec lui dans la gloire? Ou est-ce que je vais me retrouver dans les ténèbres? Les ténèbres, c'est aussi pour des chrétiens qui ont été légers. Ils ont été légers. Le premier texte où Jésus parle des ténèbres, des pleurs et des grincements dedans, c'est par rapport aux chrétiens qui ont une foi de pacotille. La foi, elle doit venir de la parole de Dieu. Moi, j'en suis certain que lorsque vous priez, Dieu va vous mettre quelque chose à cœur. Si mon peuple s'humilie, et mais c'est peut-être là qu'il faut commencer. Mais c'est vrai, j'ai critiqué la sœur Antel. Elle prie jamais. Franchement, ça la fout mal. Elle pourrait prier de temps en temps, quand même. Et vous savez, sa vie de prière, vous la connaissez cette sœur? Qui on est pour juger? Et celle-là, comment elle s'habille? T'as vu comment elle est accoutrée? Vous allez me dire, oh, tu vas papinailler avec ça, Gérard, ce matin, c'est bon. Écoutez-moi. La Bible dit que si nous jugeons, ça se passera mal. Je pense qu'on est des hommes, des femmes. Quand on a à se dire des choses, on se les dit. Oui ou non? Le serviteur inutile. Vous voyez, j'ai parlé de celui qui ne prend pas soin de sa femme. Celle qui ne prend pas soin de son mari. Le couple qui ne prend pas soin de ses enfants. On pourrait parler de celui qui ne veut pas pardonner. Celui qui ne respecte pas les autorités. On pourrait prendre tous les exemples. Celui qui peut-être n'a pas rendu l'argent. Ah, mais ce frère-là, il est plein de blé. Écoute, il n'est pas 1 000 euros près. Ah oui, vous avez vu ce que Dieu dit sur les dettes? Si on vous a prêté 500 euros, ben rendez-les. Oui ou non? Ça vous choque ce que je vous dis? Vous comprenez? C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Si mon peuple s'humilie, et je voudrais que nous soyons sérieux dans les choses pratiques, l'évangile, ce n'est pas de la théologie, et comment seront les rues pavées d'or, Monsieur Gau, ça sera du 15 carats, du 24 carats. Non mais jamais personne ne m'a posé la question. Mais il y a des gens qui sont intéressés par ce qui se passera au ciel, comment seront les rues, comment seront ceci ou cela, ou le fleuve d'Olympide, etc. Bon, moi ça m'intéresse aussi. Mais avant de savoir comment seront les rues du ciel, il faudrait être mieux sûr qu'on y va au ciel. Et de commencer à se dire, mais est-ce que je fais partie de ces agneaux, de ces brebis qui entendent la voix du Seigneur et qui font ce que Dieu leur demande? Parce qu'il y a déjà dit, ah, moi je ne fais plus rien, moi je ne fais plus rien, j'en ai marre. Mais c'est comme ça que ça va se passer? Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, si vous êtes baptisés, si un jour vous avez pris le baptême d'eau, si un jour vous avez dit au Seigneur, tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, ma vie ne m'appartient pas. Moi je me souviens les 3 semaines que j'ai passées où le pasteur m'avait dit, Gérard, fin juin tu nous dis si tu rentres ou non dans le ministère. Pendant 3 semaines j'étais comme un chien malade. Comme un chien malade. Je me rappelle où j'étais à Alban dans le Tarn. Mais comme un chien. Parce qu'il m'avait dit, écoute, en fin juin, il te faut te décider, tu rentres ou tu ne rentres pas dans le ministère. Mais ça a été les trois semaines les plus oppressantes, parce que pour moi, rentrer dans le ministère, c'était quelque chose d'inconcevable. Mais je voulais obéir à Dieu, et le Seigneur me l'a montré. Est-ce que vous pensez que j'avais raison de rentrer dans le ministère? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous demande? Peut-être c'est de rentrer dans le ministère, un jeune. Peut-être que votre femme ne veut pas. Eh bien, priez. Demandez-nous, on va prier ensemble. Vous croyez que Dieu peut incliner le cœur de votre femme? Moi, Dieu a incliné le cœur de ma femme. Elle ne voulait pas rentrer, mais moi, j'étais bien content. J'étais content, moi, qu'elle ne veuille pas rentrer dans le ministère. Parce que je me disais, moins si elle ne veut pas rentrer dans le ministère. Au moins, toi, c'est bon. J'étais content. J'ai dit, mais écoute, je comprends. T'inquiète pas, je comprends, tu as raison. J'étais content parce que pour moi, ça me donnait l'autorisation de ne pas rentrer dans le ministère. Et je me rappelle un soir, on rendait grâce à table. J'ai dit, tu peux rendre grâce, s'il te plaît? Et paf, elle se met à pleurer. Non, je ne veux pas t'empêcher d'entrer dans le ministère, je sais que ce n'est pas bien. Parce qu'on savait, on avait vu des exemples, comment vivaient certains pasteurs et on ne voulait pas rentrer dans le ministère. On avait des témoignages, mais de fous. On ne pouvait pas rentrer dans le ministère, tellement les salaires à l'époque que les pasteurs avaient, ce n'était pas comme ici, vous me gâtez, et combien je vous en suis reconnaissant. Vous savez, c'est Dieu qui bénit, ce n'est pas le salaire. C'est Dieu qui bénit. Mais je suis persuadé que si quelqu'un est humble avant de prier, et si quelqu'un comme ce pauvre pharisien, ce pauvre publicain dans la parabole, il est là dans le temple, il dit, mais Seigneur, je vais prendre la Sainte-Seine, je veux le prendre avec vraiment, vraiment sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis peut-être âgé, mais est-ce que quand on est âgé, Dieu peut avoir encore besoin de nous? Cette semaine, j'ai visité une personne âgée qui voulait me voir, elle voulait me voir à tout prix, et j'étais la voir. Mais dans l'entretien, je lui ai dit, ma sœur, vous vouliez me voir, ça vous fait plaisir de me voir. Mais je vois que dans votre cœur, il y a plein d'amertume. Ah, mais non, monsieur, il ne faut pas parler de ça. C'est bien la communion, mais il y a une vraie communication. Et j'ai dit à cette sœur, vous êtes âgée, vous risquez de partir bientôt. Il faudrait que vous déposiez cette amertume. Et on a prié. Voyez, on peut vivre une vie spirituelle superficielle, mais on peut vivre une vie spirituelle vraie, bénie, heureuse. Car si Dieu parle du malheur des gens qui vivent dans la moquerie, dans l'insulte, dans le blasphème, et lisez la Bible, ce qui s'est passé en France, laissez-moi vous dire que c'est ce qu'on a semé, ce qu'ils ont semé, parce que moi je ne suis pas là-dedans. Et ce que quand on sème le vent, on récolte la tempête. C'est imparable. Et ce n'est pas fini. Mais nous, on ne sème pas le vent. Nous, on va semer la bénédiction. On est des enfants de bénédiction. La Bible parle des chrétiens qui sont des enfants de malédiction. Est-ce que c'est écrit ou non? Oui, ce sont des enfants de malédiction. Les gens qui ne sont pas sérieux avec la parole de Dieu. Et moi, je voudrais, mes frères et sœurs, que cette sainte scène, ça soit l'occasion de prendre une grande victoire. De dire, mais Seigneur, mais c'est clair, ça fait obstacle à la prière. Quand je vois, mais examiner. Il y a des chrétiens quand ils parlent, mais moi, je me dis, mais c'est pas possible, ils ne sont pas convertis. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent plus compte. Moi, j'oserais même pas le dire. J'oserais même pas le dire. Venez, vous qui êtes bénis, entrez dans la joie de votre maître. Dieu t'a donné un talent, 2, peut-être 3, peut-être 5. Combien de talents Dieu vous a donné? Peut-être que vous ne le savez même pas. Peut-être que c'est le moment de dire, mais Seigneur, tu m'as donné un talent. Déjà peut-être d'écouter. Ah, mais moi je ne suis pas, vous savez, m'ont donné des conseils aux mémés, je ne sais pas. Mais moi quand je suis rentré dans le ministère, le pasteur me dit, mais écoute, tu vas, écoute-les mémés, écoute-les. Alors j'allais les visiter, et elle parlait. Ça parle, mémé. Elle parlait, un quart d'heure, une heure. À la fin, on priait. Ah, Gérard, tu sais, tu m'as fait beaucoup de bien. Je dis, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Je me dis, t'as fait du bien. Et j'avais rien dit, mais je l'avais écouté. Parce que le pasteur m'a dit, écoute-les. Alors j'écoutais vraiment. Vous savez, des fois, on bouchait la tête. Puis... Mais je les écoutais. C'était toujours pareil, mais ça fait rien. Je les écoutais. Et j'ai appris, pendant des années, j'ai appris. Je ne savais pas trop les choses spirituelles, parce que je suis rentré dans le ministère, il n'y avait pas 3 ans que j'étais baptisé. Mais mes frères et sœurs, j'ai appris en écoutant les gens. On apprend en écoutant. Quel est le talent que Dieu vous a donné? Moi, je vous conseille, je nous conseille, mes frères et sœurs, de dire, mais quel est mon problème? C'est peut-être l'incrédulité, c'est grave l'incrédulité. Eh bien, il n'y a pas un homme dans la Bible qui a dit, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Dieu l'a pas béni à ce brave gars? Il a été honnête, c'est ça. Je crois, il était là, il était dans la présence de Jésus, il croyait. Mais je crois, mais cette affaire de mon fils qui est possédé, ça me dépasse. Viens au secours de mon incrédulité. Peut-être c'est, je sais pas, peut-être c'est la désobéissance, peut-être que vous êtes rebelle, tout le temps en train de râler, et vous vous rendez pas compte que c'est contre Dieu. Lisez Malachie, et vous allez voir que c'était pas contre le prophète qu'ils en voulaient, c'était contre Dieu. Malheur à l'homme qui conteste avec Dieu. Alors est-ce que vous croyez que Dieu peut nous bénir dans ce moment de Sainte-Cène? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous montrer ce qui fait obstacle? Peut-être il y a un truc, peut-être il y en a 10. Mais notez-les. Notez-les qu'il faut peut-être écrire à tante à Gabriel et dire, écoute, je te demande pardon. Peut-être écrire à un rétrograde. Peut-être demander pardon à votre mari inconverti. Oh, mais s'il est inconverti, c'est qu'il a tort. J'ai connu une sœur, moi, qui venait aller tout le temps à la prière, tout le temps au jeûne et prière, mais vraiment fervente. Et elle parlait de son mari, mais vraiment, heureusement qu'il n'était pas là. Et un jour, en priant, je l'ai appelé, je dis, écoute, arrêtez de jeûner. Vous pouvez arrêter de jeûner. Ah, me dit, pourquoi? Je dis, par contre, vous pouvez arrêter de jeûner, mais d'abord, il vous faut demander pardon à votre mari pour l'avoir critiqué comme vous l'avez fait. Ben, c'est un païen, si vous saviez comment. Mais vous ne vous soumettez pas à votre mari. Il faut aimer votre mari. N'importe quoi. J'ai dit, vous voulez être guéri? Demandez-lui pardon. Elle m'a appelé 3 jours après. Monsieur Gault, le Seigneur m'a guéri. Oui, j'ai demandé pardon à mon mari. Parce que Marie, il est inconverti, vous croyez que c'est un imbécile? Vous croyez que parce que votre mari est dans les ténèbres, vous croyez que Dieu l'aime pas et que Dieu peut-être va le sauver par votre bénédiction? Moi, j'ai vu une femme, je demandais à mon épouse. On avait invité un couple et devant, à table, la chrétienne que je connaissais comme une chrétienne formidable, elle a parlé à son mari, mais toi, t'es qu'un imbécile, comment veux-tu te convertir, t'es un âne. Enfin, elle lui a parlé, c'était un peu plus épicé. Et je l'ai pris, je lui ai dit, écoutez, Madame Untel, si votre mari va en enfer, ça sera votre faute. Elle était folle. Et oui, je vous le dis. Vous êtes en train de le scandaliser et de l'éloigner de Dieu. Et je crois qu'on devrait quand même... Et c'est une femme tout le temps à prier, à vous faire pleurer les chaises. Oui, il faut toujours prier. Et une église qui ne prie pas est une église qui n'arrivera pas. Mais prier, c'est bien. Mais il faut d'abord obéir. Et il faut que chacun, moi le premier, et je le fais. Parce que je sais que je vais comparaître devant Dieu. Et moi, je veux que ça soit un super jour, ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais passer devant Dieu, je veux que ça soit génial. Alors, on va fermer les yeux. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Et soyons sérieux. Ce sont des moments archi sérieux, archi importants. Mes frères et sœurs, je vous répète la question de la part du Seigneur. Vous savez, dans les prophètes, ainsi parle le Seigneur, ce n'était pas le Seigneur, c'était Esaïe, c'était Ézéchiel. Et moi, je vous le dis, ainsi parle l'Éternel. Êtes-vous utile? Êtes-vous inutile? Si vous êtes inutile, vous êtes vraiment en danger. Mais le Seigneur est sur son trône. Il est sur le trône de la grâce. Et vous pouvez, tant que la porte est ouverte, tant que Jésus est assis sur le trône, tant qu'il n'est pas trop tard, vous pouvez dire ce matin, je me ressaisis. L'église doit être une maison de prière, je dois prier, je dois aimer la prière, ou même si je ne l'aime pas, tant pis, je prie. Il n'est pas dit aime la prière et si tu aimes, prie. Il est dit prier. Alors que vous l'aimiez, bien, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, bien, c'est pas grave. Priez. Mais est-ce que vous êtes utile? Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes utile ou inutile? Si vous êtes inutile, ça va très mal se passer. Quelle grâce de pouvoir être encore dans la grâce. Oui, du temps de Noé, il priait. Ah, il priait, ça c'est clair. Tout le monde priait. Mais ils ont été 8. 8 dans l'arche. Ça fait peine quand même. Aujourd'hui, les églises prient. Il y en a qui ne prient plus parce qu'il y a tellement longtemps qu'ils ne sont pas exaucés et ça tient debout. Hein. Mais quand même, on est ici. Nous sommes membres de cette église. Est-ce que vous voulez que nous soyons juste des membres d'église? Ou est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent faire partie de l'épouse de Christ? Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever maintenant. Devant Dieu, pas devant moi, parce que moi de toute façon je ne vous vois pas, j'ai les yeux fermés. Qui c'est qui veut se lever maintenant et dire Seigneur, je me lève devant toi. Je t'avais demandé de me parler. C'est vrai que je suis tout le temps en train de critiquer. Je prie, je critique. Eh bien, choisissez ou continuez à critiquer. Mais si vous continuez à critiquer, arrêtez de prier. Ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Ça ne sert à rien. Quand vous multipliez les prières, dit Dieu, je n'écoute pas. C'est dans ce contexte-là. Vous pouvez jeûner, mais ce n'est pas la peine. Arrêtez de jeûner, mangez, profitez. Mais choisissez. Comme dit Josué, mais choisissez qui vous voulez servir. Choisissez.